flamme existe-t-elle encore, Tigellin?
Rome est un océan de flammes, elle flambe, elle brûle de fond en comble.
As-tu entendu? C'est cela, mon épopée. Changer la face du monde, démolir et créer de nouveau.
Ans d'histoire. Dans la nuit du 18 au 19 juillet 64, dans les entrepôts près du grand cirque de Rome, commence un des incendies les plus dramatiques de l'histoire. Attisés par des vents violents, les flammes montent sur le Palatin et atteignent les collines du Quirinal et de l'Esquilin. Pendant 9 jours, le feu va détruire les 3/4 de la métropole de l'Empire romain et faire vaciller le pouvoir d'un homme que l'on soupçonne aussitôt d'avoir incendié sa capitale. Néron, dont les extravagances et la cruauté fascinent les hommes depuis près de 20 siècles. Depuis cet incendie de Rome, qui a fait basculer dans l'horreur un règne commencé pourtant 10 ans plus tôt, en 54, sous les meilleurs auspices.
Dieu de Rome, puissant, éternel, sous vos auspices, Rome domine le monde. Vénus, déesse de l'amour.
Oui, nous parlons.
Mars, dieu de la guerre.
Oui, nous parlons.
Jupiter, père de tous les dieux.
Oui, nous parlons.
Et Néron, son divin fils.
Hortense Dufour, bonjour.
Bonjour.
Alors nous allons parler avec vous de Néron, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a vraiment depuis longtemps une très très mauvaise réputation, puisqu'à l'incendie de Rome, dont on l'a accusé tout de suite, il faut ajouter des meurtres assez effrayants. Il a assassiné un concurrent, un demi-frère, Britannicus, ses deux premières femmes, Octavie et Poppée, et puis même sa propre mère, Agrippine. Alors il faut peut-être, parce que tout ça, ça fait oublier quand même, que le début du règne de Néron, un règne de 14 ans, ça a presque été exemplaire.
Oui, Néron, moi je dirais que c'est un cliché, Néron. Depuis près de 2000 ans, il est enferré, puni, maudit dans un cliché. Effectivement, on prend les trois images les plus graves, l'incendie, le massacre des premiers chrétiens et le matricide. Et à partir de ces trois dilemmes convulsifs, effrayants, il faut le dire, on a fait de Néron ce que Renan disait, la bête. Mais en fait, l'histoire est beaucoup plus subtile et chaque empereur, chaque régime totalitaire de l'époque était souvent un bain de sang, mais aussi un bain de culture, de musique, de stratégie, d'architecture et d'art. Et comme vous disiez fort justement, le règne de Néron, manœuvré entièrement par sa mère Agrippine, en 54, il n'a que 17 ans. Mais déjà, il avait été formé par un philosophe magnifique qui était Sénèque.
Donc, oui, il est bien entouré. Hein. Il a toute la fine fleur de la littérature romaine. Il y a Sénèque.
Il est entouré. Mais
il y a Lucain, il y a Pétrone.
Oui, ça c'est progressivement lui-même après qu'il va choisir cet entourage. Mais Sénèque le forme dès ses 13 ans. Dès l'extrême jeunesse, il est formé auparavant d'ailleurs, il a grandi à la fois tout seul et entouré d'art et d'une culture déjà très forte et très égyptienne en fait. Et sa mère l'avait confié à Sénèque, mais sa mère est la vraie stratégie et le vrai moteur de la folie de Néron. Donc à 17 ans, il a un programme. Il a un programme qui est original, ferme et fort audacieux pour l'époque.
En quoi consistait-il ?
Eh bien, on sort tout juste du régime extrêmement sombre, du sombre Tibère, qui est un régime de terreur. Rome sort tout juste de la folie de Caligula.
Il y a eu Claude, oui.
Claude est l'imbécile, on l'appelait l'imbécile, mais en fait, c'était un homme qui a été assassiné d'ailleurs par sa femme Agrippine. On sort de la terreur et le peuple et le monde romain misent sur ce garçon très jeune qui lui-même est extrêmement angoissé
et très populaire, parce
qu'il
va
prendre.
Très populaire du début pratiquement à la fin de son règne, assez curieusement.
Oui, parce que Néron est très jeune. d'esprit très ouvert. Néron s'habille en grec, Néron porte les cheveux longs, Néron se poudre d'ambre et d'or, Néron a compris l'androgynie originelle de tout être. Néron est terriblement grec, si vous voulez, c'est ce que le Sénat lui pardonnera le moins. Donc, revenons à son programme. Son programme est très structuré, bien sûr. Il y a l'influence de Sénèque, mais il a personnalisé le programme au point de choquer déjà. Le programme, le voici, il est très simple et très nouveau suite au régime d'Octave, César, qui était très militaire. Très... Néron a dit « Je sépare ma maison de l'État ». Ma maison, qu'est-ce que ma maison ? C'est ma maison privée, c'est la Néroniana, c'est-à-dire mes amis, les gens que je choisis, mon cercle. Dans le cercle, il y a d'ailleurs différents courants philosophiques, stoïciens, épicuriens, etc. Et je sépare ma maison, c'est vaste, hein, ma maison, c'est Rome à la limite, de l'armée, par exemple. Mon armée doit être une armée de métier. C'est Afranius Burrus qui s'en occupera. Alors, séparer sa maison de la maison, de la stratégie militaire, c'est extrêmement offusquant pour Rome, Rome la machiste, Rome l'austère, Rome du Sénat, où les sénateurs sont en toge longue et les cheveux très, très presque rasés, etc. Et voici cet enfant homme de 17 ans qui ose affirmer au détriment d'Agrippine elle-même « Je sépare ma maison de l'armée ».
Et puis c'est un artiste, un amateur de musique et d'art, composant des poèmes. Écoutez cet extrait de Covadis, qui va nous servir un petit peu de fil conducteur, un péplum de 1951 qui n'est pas tendre avec Néron, incarné dans ce film par Peter Ustinov.
Écoutez-moi, écoutez-moi tous! Quand je chante en m'accompagnant, j'ai la vision de choses qui dépassent mon imagination. Le monde est à moi. J'en suis le maître absolu. La musique m'ouvre de nouveaux domaines, me laisse entrevoir de nouvelles formes de félicité. Je distingue l'Olympe. Une brise m'apporte le parfum d'un monde au-delà d'une autre. Et dans ces moments, César, un dieu, se sent aussi misérable qu'un insecte. Savez-vous pourquoi j'ai décidé de faire mourir ma femme et même ma mère, que j'adorais? Au seuil de l'inconnu, j'ai senti qu'il fallait apporter en offrande le plus grand sacrifice qu'un homme puisse concevoir. Maintenant, ai-je songé, je sais que vont s'ouvrir les portes mystérieuses au-delà desquelles j'apercevrai l'inconnu dont je suis hanté. S'il est sublime, tant mieux. S'il est horrible, tant pis. L'essentiel est qu'il s'écarte des sentiers battus.
Hortense Dufour, là, on vient d'entendre Peter Ustinov incarnant Néron dans Covadis. Avant de parler peut-être du côté sombre, de la face sombre du personnage, de ses assassinats, parlons de l'artiste quand même. C'est effectivement quelqu'un qui écrivait de la musique, qui chantait, qui se produisait dans les cirques, qui faisait le cocher, ce qu'on peut-être lui reprochait.
Tout ça a fait partie de la condamnation à mort officielle du Sénat. C'est-à-dire ce qui a exalté la foule, vous savez qu'une foule peut se retourner, a été sa mise à mort. Mais Néron a été un enfant abandonné qui a été élevé entre un cocher, un barbier, deux femmes, ses deux nourrices, Thépnos, le citharède, et Paris, le versificateur. Donc, dès l'enfance, il a un univers féminin, les nourrices qu'il a tétées longtemps d'ailleurs. Agrippine était dans ses stratégies, son exil. Et deux artistes. Donc il est imprégné d'art et du modèle grec, Thépnos est grec.
Il est allé en Grèce.
Et du modèle égyptien. Ah oui, il est fou de Grèce et fou d'Égypte. Et son vrai modèle est Marc-Antoine, son arrière-grand-père. Mort Marc-Antoine, c'est en fait la bête noire avec la reine Cléopâtre de Rome.
Alors,
donc
ça, c'est,
déjà, il a un modèle.
Ça, c'est la face, comment dirais-je...
Lumineuse
du personnage. Il y a une face sombre aussi, c'est le criminel. Et c'est évidemment ce qu'ont retenu les historiens très peu de temps après le règne de Néron. La revue de texte, Stéphanie Duncan.
Oui, une grande partie de ce qu'on sait de Néron, et du même coup sa mauvaise réputation, on le doit à Suétone, auteur latin du IIe siècle, qui rédigea une Vie des Césars, dans laquelle Néron tient une place de choix. Alors au début du règne, comme vous le disiez, les choses se présentent plutôt bien. Néron, écrit Suétone, ne laissa passer aucune occasion de montrer sa générosité et sa clémence, et même sa bonté. Les impôts lourds furent supprimés, il n'y eut point de jour où le peuple ne fût inondé de cadeaux de toutes sortes. Donc Suétone nous montre là la face positive du personnage, la face diurne, je dirais. La nuit, en effet, comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Néron se métamorphose. Dès la nuit tombée, dit-il, Néron se coiffait d'un bonnet d'affranchi ou d'une perruque, entrait dans les tavernes, errait dans les rues, se plaisait à frapper les gens, forçait la porte des cabarets et les mettait à sac. Donc nous voyons donc au début le débauché se cache, mais peu à peu, poursuit Suétone, ses vices s'épanouirent et toute honte bue, il passa brutalement à des actes plus graves sans plus chercher à les dissimuler. Il faisait durer les festins du milieu du jour jusqu'au milieu de la nuit. Outre ses débauches avec des femmes mariées, la Vestale Rubria subit ses violences. Alors, il faut dire que les Vestales, c'était ces prêtresses vouées au culte de Vesta et qui devaient être vierges et le rester. Néron, poursuit Suétone, fit castrer Sporus, un jeune esclave, qu'il voulait à tout prix transformer en femme. Ce Sporus, paré des ornements des impératrices, véhiculé en litière, fit le tour de Rome, accompagné de Néron, qui le couvrait de baisers. Suétone soupçonne même Néron d'inceste. Qu'il eût voulu s'unir à sa mère, dit-il, personne n'en douta. Un autre auteur latin, Tacite, donc pas des moindres, affirme lui que c'est Agrippine elle-même qui l'entraîna, furieuse de voir son fils ne plus lui obéir, lui préférer une autre femme. Alors, écrit Tacite, Agrippine se mit à attaquer son fils en lui prodiguant des caresses et lui offrit d'utiliser plutôt sa chambre à elle et son intimité. Alors, le personnage Néron a une image si monstrueuse que bien des années plus tard, au XIXe siècle, l'écrivain français catholique Ernest Renan écrira « Ce monstre à face humaine, composé de férocité, d'hypocrisie, d'impudicité, s'enivrait du sang des saints. On attachait nu au poteau de la reine, des femmes, des hommes, des adolescents. Une bête s'assouvissait sur chacun de ses corps. Or, la bête, c'était Néron, revêtu d'une peau d'animal fauve. » Le nom de Néron est trouvé, s'exclame Ernest Renan. Ce sera la bête, l'antéchrist.
C'est un réquisitoire, Hortense Dufour, là, Tacite, Suétone, même Renan. Vous venez d'écrire, vous, un livre qui s'appelle Moi Néron, qui a été publié chez Flammarion. Vous êtes beaucoup plus tendre pour Néron. Alors, la parole est à la défense après ce réquisitoire.
Tendre, non, je ne suis pas tendre.
Plus compréhensive.
Je
ne
suis pas du tout manichéenne. Ouais. Et ce que je viens d'entendre, effectivement, j'ai lu Tacite en entier et Suétone, il fallait bien. N'oublions pas que ces historiens écrivains étaient sous des régimes, effectivement, totalitaire, sous Vespasien, c'est un siècle plus tard, et ils ont l'ordre, je dis bien l'ordre par le Sénat et l'Empereur d'alors, de détruire à jamais l'image de Néron, le nom de Néron, la maison brûlée elle-même sous Trajan a été exterminée, etc. Donc, il reste extrêmement manichéen. Il s'agit d'établir le fameux cliché. Il faut établir et à jamais la bête.
Oui, mais enfin, il y a des réalités. Agrippine, sa mère, a été assassinée. Il l'assassine en 59. Elle a d'ailleurs ce mot extraordinaire qui prouve quelle affection elle avait pour lui. Au moment où elle est tuée par des prétoriens qui sont envoyés par Néron, elle dit qu'il me tue pourvu qu'il règne.
Oui, alors je vais quand même modifier ou tout au moins rendre moins manichéenne l'histoire. C'est que quand Agrippine a mis au monde cet enfant, volontairement, par stratégie, de manière à avoir le pouvoir à travers un fils. Elle savait qu'elle portait un fils, elle voulait un fils. Une fille, elle lui fait tuer probablement. Il fallait un fils. Et à la naissance, il est né à Antium, en l'an 37. On a examiné...
Anzio, aujourd'hui, oui.
Anzio, c'est devant la mer Tyrrhénienne, c'est dans le Latium. C'est, bon, c'est un endroit extrêmement beau, extrêmement troublant aussi, assez mortifère. Et à ce moment-là, et c'était l'usage, on a examiné le placenta. Et Bilbilus, le médecin, ils ont dit « Oui, il va régner, mais il va te tuer. » Donc, voilà une imprégnation, si vous voulez, psychanalytique d'un enfant qui est élevé avec le message « Tu régneras, mais tu me tueras. » Et immédiatement, au relevail de l'accouchement, elle a dit « Eh bien, qu'il règne, qu'il me tue, mais qu'il règne. » Et en fait, le chemin, le destin, le fatum, est en route.
Enfin, il a tué aussi deux de ses femmes, les deux premières, Octavie, Poppée, il lui donne un coup de pied dans le ventre au moment où elle est enceinte.
Mais pardonnez-moi,
il a tué Britannique.
Le meurtre d'Agrippine. N'oublions pas que Sénèque, le stoïcien, le si sage, avait également.
Approuvé.
Il avait approuvé en disant elle est dangereuse à la cité. Ouais. Il convient de juger Agrippine. C'est-à-dire qu'en fait, elle se mêlait tellement du pouvoir que Rome la machiste ne la supportait pas.
Oui, oui.
Donc Sénèque avait quand même alimenté la tragédie.
Il y a eu d'autres crimes, en tout cas, le martyr des chrétiens, on en parlera dans quelques instants, après cette musique romaine, bien entendu, cela va de soi.
Thank you.
France Inter, 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet.
C'était l'ensemble Sinolia, une reconstitution de musique de la Rome antique avec des instruments de musique de l'époque de Néron. Néron, dont le règne a duré de 54 à 69, les autres événements de l'actualité, Stéphanie.
En 58, l'apôtre Paul est à Corinthe où il rédige l'épître aux Romains. En 60, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Angleterre, Boudica, la reine des Iséniens, se révolte contre la présence romaine, révolte qui sera écrasée dans le sang. En 62, Luc, compagnon de Paul, rédige son évangile et son acte des apôtres. Vers 65 de notre ère, le bouddhisme, d'origine indienne, est introduit en Chine. En 66, en Palestine, les Juifs se révoltent contre l'occupation romaine. Vespasien est chargé de les écraser. L'année suivante, les apôtres Pierre et Paul sont mis à mort à Rome. En 69, c'est au tour de Véléda, prêtresse germanique, de se soulever contre les Romains. Elle aussi sera vaincue.
Et puis en 64, je reviens en arrière, c'est donc le terrible incendie de Rome. Écoutez.
Pétone, contemple ma création. Tigellin, ma robe de deuil. Terpnos, ma lyre. L'histoire jugera mon ode, Pétrone. Crois-tu que mon ode sera à la mesure des circonstances? Je suis saisi de frayeur à l'idée qu'elle pourrait ne pas être assez belle.
N'aie pas peur, tu seras digne du spectacle. Autant que le spectacle sera digne de toi.
Oui, tu es encourageant au moins, Pétrone. Mais je n'oublie pas que j'ai pour rivaux ceux qui chantèrent l'incendie mortel de Troie. Je me dois de faire mieux encore, car Rome est plus grande que Troie. Silence aux sphères! Paix, astre scintillant, ouvrez-vous, voûte céleste qui m'abritez. J'attendais cet instant où je vois de l'Olympe la lumière dorée qui me baigne, car je fais partie des immortels. Oui, c'est moi, Néron, l'artiste maître du feu, dont les rêves vont enfin prendre forme. Brûle!
Je ne sais pas, Hortense Dufour, si Néron chantait comme ça. C'est un extrait de Covadis, donc, effectivement, qui accable Néron, qui l'accuse d'avoir incendié Rome. Enfin, c'est Néron lui-même, dans ce film, qui dit « J'ai incendié Rome pour m'inspirer, pour inspirer ma musique ».
Oui, enfin, c'est l'auteur de Covadis. Ouais. Ça, c'est tout à fait, depuis Renan, le rejet prodigieusement, l'exclusion prodigieusement catholique de l'empereur Néron. Mais les choses ne se sont pas passées tout à fait ainsi. Néron n'était pas à Rome lors de l'incendie, il était à Antium. Et n'oublions pas que Rome brûlait fréquemment. Rome brûlait tellement fréquemment que déjà l'empereur Octave avait créé les premiers pompiers. Et il y avait un gros problème d'eau que Néron a essayé d'arranger, car il était très architecte, très géomètre. Il avait dessiné une canalisation qui devait aller au port d'Ostia, pour ramener de l'eau au centre de Rome, car les fontaines étaient tout le temps asséchées. Donc impossible aussi dans ces constructions, ces sortes de salmigondis d'immeubles, ces ruelles, ce lacis de ruelles, impossible de gérer le feu. Et Néron avait l'idée de faire de Rome un modèle comme Alexandrie, des voies très larges. Lutter contre le feu a été sa grande obsession. Et ses dessins d'architecte, d'ailleurs il avait évidemment deux Grecs architecte à ses côtés, Célère, dont le grand Célère, c'était surtout la lutte contre le feu, ramener de l'eau dans Rome.
D'ailleurs, il a participé lui-même, il est arrivé très vite, il a participé au secours, avant même ou après avoir chanté, disait-on, devant la ville incendiée.
Il avait un entourage épouvantable, et il est au pire de son état mental. C'est quelqu'un qui est... C'est un livre et une histoire sur la peur, Néron. C'est quelqu'un qui est dans l'angoisse permanente. C'est quelqu'un qui a tout le temps la menace, dit-il, du dieu Pan. Oui. Qui se vengerait, qui aurait été également, qui serait mort au jour de sa naissance. Donc c'est la panique.
Oui, mais il y a des choses qui l'accablent un petit peu. C'est que tout le monde sait à l'époque à Rome qu'il veut effectivement reconstruire une ville nouvelle, qu'il appellerait d'ailleurs Néropolis, avec son propre nom, qu'il a construit juste après un palais immense, 124 hectares au cœur de Rome, dans lequel il y avait une statue colossale de lui-même. On s'est dit, est-ce qu'au fond, comme les promoteurs d'aujourd'hui, est-ce qu'il n'a pas incendié Rome pour pouvoir construire ce palais au cœur de la ville? C'est assez accablant.
Il avait un entourage qui avait tout intérêt à ce qu'il disparaisse, dont Tigellin et d'autres gens.
Qui était le préfet du prétoire, c'est-à-dire le chef des prétoriens, de la garde
donc,
prétorienne.
C'est ça, c'est toujours un monde militaire qui renverse un empereur. Donc l'armée, dirais-je, le monde militaire romain avait pensé qu'il fallait une stratégie furibonde pour que de façon officielle, car les Romains restent toujours très légalistes, n'oublions pas Cicéron, etc., il fallait juger Néron. Donc un incendie arrangeait extrêmement la chose. Imaginez Néron seul disant « on incendie Rome ». C'est impossible, il honore Rome et voici que le feu prend de l'est, de l'ouest, du nord, du sud. Et oui, il a pris sa lyre, oui, il a déliré, oui, il a bu, mais il voulait déjà se suicider de chagrin de voir sa ville détruite, car également son palais, le palatin perchoir, tout était pris dans les flammes.
En tout cas, avant de se suicider, il cherche
tout
également à détourner sur d'autres que lui les soupçons qui pèsent pour l'incendie de Rome. Il est encouragé par le préfet du prétoire, Tigelin, et puis par sa veuve, Poppée. Eh bien, il va chercher d'autres responsables.
Qu'est-ce qu'il demande ?
La justice.
Le peuple ne demande pas de justice, il veut une vengeance.
Néron, mon bien-aimé, tu as raison. Offre au peuple ce qu'il veut. Offre-lui un bain de sang, une vengeance. Non pas une victime, mais des centaines, des milliers.
Des victimes ? Quelles victimes ?
Des gens qui vénèrent un dieu plus grand que toi, à les en croire. Ils sont les ennemis de la race humaine et les tiens aussi.
Qui sont ces gens ?
Ils se donnent le nom de chrétiens.
Des chrétiens ? J'en ai entendu parler, il me semble.
L'impératrice parle d'or, César. Le peuple hait ces chrétiens. Ce sont les ennemis de Rome et de l'État.
Le peuple crie vengeance, Néron. Assouvis sa colère. Le peuple te soupçonne. Dirige ses soupçons contre ces monstres plutôt que contre ta personne.
Une tablette, Phaon. Le peuple aura d'ici peu sa vengeance.
Dans les présentes, je proclame que l'incendie qui a ravagé notre métropole bien-aimée est l'œuvre d'une secte de fanatiques qui s'intitule chrétiens. J'entends exterminer ces criminels d'une manière proportionnée à l'énormité de leurs crimes.
Hortense Dufour, donc c'est le début, effectivement, d'une persécution qui n'a jamais pris cette ampleur encore. Il faut dire que Jésus est mort peu d'années avant, c'était 30 ans, 40 ans avant. Et voilà que maintenant, effectivement, on va voir les premiers martyrs, Saint Pierre, Saint Paul, dont on dit qu'il serait mort à ce moment-là.
Oui, l'apôtre Paul et Pierre étaient à Rome au moment de toutes ces turbulences. Dans les Actes des Apôtres, Paul dit « j'en référerai à César » quand il est interrogé déjà à Césarée, quand il est prisonnier également. Enfin, c'est des tribulations. On ne les appelle pas les chrétiens, on les appelle la secte du poisson. C'est plus tard que la secte. C'est une secte, effectivement, mais Rome regorge de sectes. Sauf qu'ils sont extrêmement gênants aussi à la cité, à l'idée divine et militaire de Rome. C'est-à-dire qu'ils se prétendent représenter un dieu, le plus pauvre d'entre tous, qui eût été le roi des Juifs, et qui est plus fort que César, sans armée, etc.
Est-ce que c'est ça, cette terreur qui apparaît, qui va entraîner la chute de Néron, qui va se suicider
Non, ils n'ont pas peur. C'est pas du tout la terreur
à
l'époque.
Il meurt, il se suicide effectivement 3 ans plus tard.
Ce sont des dissidents,
Ce sont des dissidents, ce sont tous les gouverneurs des provinces qui se soulèvent contre lui.
C'est une... mais pour revenir à la phobie de cette secte du poisson, qui deviendra ensuite secte chrétienne, puis des chrétiens, etc. C'est une phobie vis-à-vis d'une secte qui est indisposante à l'aspect divin d'un empereur.
Mais non, je voulais en venir parce qu'il nous reste très peu
donc
de temps.
Donc on les tue. Oui,
il y a peu de temps après, il y a effectivement tous les gouverneurs qui vont se soulever, ou en tout cas beaucoup, 3 d'entre eux, dont Galba qui va prendre le pouvoir
militaire,
et pousser Néron au suicide en 69.
Oui, parce que en fait, depuis à peu près 5-6 ans, depuis le matricide, depuis la mort d'Agrippine, la stratégie d'éliminer Néron, le monde militaire se met en place. Le vieux Nerva, le vieux Galba, je dis vieux parce qu'ils avaient fait campagne, ce sont des militaires. Ce sont des militaires qui deviendront d'ailleurs brièvement. Il y aura 9 empereurs très brièvement.
Le suicide de Néron, c'était...
Alors, le suicide de Néron, c'est que tout est...
Quel artiste le monde va perdre, dit-il.
Ah oui, mais ça s'est passé d'une façon incroyable. Cet homme qui avait tout, cet homme qui avait les ors, cet homme qui avait les femmes et les hommes, parce qu'il épousait des hommes et des femmes, cet androgyne total, ce grec, ce fou d'art, qui s'est trompé de carrière, si vous voulez, cette pathologie-là.
Il n'a pas le choix.
Non. Le moteur, je vous dis, a toujours été Agrippine. Par l'inceste, elle a souillé la couche de son fils. Oh, disait Sénèque, ne te comporte pas en Jocaste. Donc, on arrive à un moment où Néron, effectivement, le suicide, c'est lamentable. Il se retrouve seul, courant sur un chemin, jour et nuit, ça dure 24 heures, à peu près une trentaine d'heures, il dort dans un marais. La peur, la vieille peur le reprend, entouré de 3 femmes. L'esclave Actée, qui était la fille qu'il avait aimée, entre autres, les 2 nourrices, et il s'égorge lamentablement dans une cabane à une cinquantaine de kilomètres de Rome, un 11 juin, en plein soleil, en plein désastre, avec une terreur terrible de diriger ce poignard contre sa gorge, et c'est l'esclave affranchi Épaphrodite, il avait couvert d'or ses esclaves, qui dirigera le poignard pour aider à cette fin, il mourra sur les genoux d'Actée, qui fera brûler son corps. Il a préparé son bûcher d'ailleurs et rappelé repatriera les cendres à Rome. C'est lamentable.
Merci en tout cas Hortense Dufour de nous avoir rappelé justement ce personnage étonnant. Ce que vous faites aussi dans un livre, Moi Néron, publié chez Flammarion, un livre dans lequel Néron écrit à la première personne, mais c'est vous qui l'avez signé, Hortense Dufour. À lire aussi Le procès de Néron de Pierre Grimal, réédité au livre de poche, et puis Néron de Guy Achard dans la collection Que sais-je ? Enfin, La vie des 12 Césars de Suétone au livre de poche dans la collection Les classiques d'aujourd'hui. Et puis vous avez pu entendre des extraits du film de Mervyn Leroy, Covadis, avec notamment Peter Ustinov, et réédité chez RCV Vidéo. Vous pouvez retrouver la bibliographie et la filmographie de l'émission sur Internet. Vous pouvez aussi écouter les émissions que vous avez ratées en composant www.franceinter.com, rubrique 2000 ans d'histoire. Envoyez-nous aussi vos remarques et suggestions sur notre adresse électronique 2000ans.histoire@radiofrance.com. C'est tout, c'était Néron. À la technique, Sylvain Barassetti et Stéphane Ourlier. Documentation, Rebecca de Nantes et Christina Willarkan. Revue de texte, Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.